Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Cette histoire commence à la fin du mois de juin 1977, à Charlieu, dans la Loire, près de Saint-Étienne. C'est le début des grandes vacances. Bon, ça ne sera pas des vacances de riches, ça sera des vacances à la maison. Avec un papa ouvrier, une famille nombreuse, 5 enfants, ce sera des vacances à jouer au foot et à courir la campagne.
La honte, c'est d'avoir des parents trop vieux. La honte, c'est d'avoir des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter une voiture, c'est pourquoi on ne partait pas en vacances. Mon père avait une mobylette bleue. La honte, c'était qu'il vienne me chercher ou qu'il m'amène en mobylette. J'étais assis derrière lui. Autour de moi, les enfants, ils étaient déposés par leurs parents. Il y avait des voitures, il y avait un peu plus de moyens.
En tout cas, Laurent, le petit dernier, qui n'a que 6 ans, est bien content que son frère soit de retour. Toute l'année, il est en internat. Et là, il débarque pour 2 mois, tel un messie. Quand on a 6 ans, un grand frère de 16 ans, c'est une sorte de héros. Et en plus, c'est un héros qui joue de la guitare. L'année dernière, ils ont passé des heures entières à jouer de la musique sous le grand chêne. C'est un matin de ces vacances-là, quand Laurent a 6 ans, que tout bascule. Un matin qui ressemble à tous les matins. Vers 6 heures, Laurent est dans son lit, il voit de la lumière sous la porte de sa chambre. Son père qui se prépare pour l'usine. L'odeur du café qui monte, le robinet qui coule quand il se rase, et puis sa mère qui se lève à son tour et qui s'agite dans la cuisine, les rituels rassurants d'une vie de famille. Laurent est dans son lit, il est réveillé mais il ne bouge pas. Il ne veut pas réveiller son frère, qui dort juste à côté.
C'est les vacances, je suis réveillé par la chaleur, il fait déjà chaud. Je suis dans ce que j'appelle l'instant d'avant. L'instant d'avant, pour moi, tout est normal. Je suis dans mon lit, mon frère est rentré de l'internat. Il dort près de moi parce qu'on est 5 et qu'on n'a que 4 chambres. Il étend son bras comme s'il se réveille. Donc pour moi, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien de grave. L'instant d'avant, je suis juste un enfant de 6 ans qui a son frère, son héros à côté de lui. L'instant d'avant, je suis très très loin d'imaginer en fait ce qu'il va m'apprendre.
Et le grand frère, en étendant le bras, vient poser sa main sur son pyjama. Et maintenant, il lui caresse le zizi, du bout des doigts.
Qu'est-ce que tu fais ?
Chut, tout va bien. Tous les frères font comme ça. Et ensuite, il vient se plaquer contre lui. Et il se frotte. Et Laurent, malgré ses 6 ans, n'oubliera jamais le souffle chaud de son haleine écœurante dans son cou. Et son frère qui lui répète en se frottant plus fort.
T'inquiète, c'est normal. C'est un truc de frère. T'as l'âge maintenant. Tu sais garder un secret, non ?
Et juste après, quand il lui baisse le pantalon de pyjama et que... Enfin, vous voyez quoi ? Laurent a mal. Il a très mal.
Arrête ! Ça fait trop mal !
Il voudrait crier, mais il ne peut pas.
C'est bientôt fini. Ne fais pas de bruit. Tu sais, c'est notre secret.
Et le grand frère n'arrête que quand c'est fini. Et Laurent est comme paralysé au bord du lit. Il sent bien que ça n'est pas normal, ce secret entre frères qui fait si mal. Et puis le grand frère se lève d'un bond et...
Mon frère est dans la cuisine, il rit avec ma mère, donc c'est qu'au final, effectivement, peut-être que tout est normal. Mais quand même... J'essaye, puisque je ne peux pas le dire, j'essaye quand même de faire comprendre à ma mère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne déjeune pas, je ne suis pas bien, pas enjoué, et j'essaye de lui faire comprendre. Mais ma mère, je comprends juste que je dois avoir une angine blanche, une angine rouge, enfin n'importe quoi, et voilà, que ça va me passer.
Dans son livre plus tard, Laurent écrira « Je regarde ma mère, j'essaye de mettre de l'intensité dans mes yeux pour qu'elle comprenne, mais elle ne m'a jamais vraiment regardé. »
Mais mon frère, c'est mon héros, il me dit que tous les frères font comme ça et que si j'en parle, on sera plus frères. Donc j'en parle pas. Dans mon esprit d'un enfant de 6 ans, mon frère vient de me dire que c'est normal que tous les frères font comme ça. Ma mère, malgré ce que j'essaie de lui faire comprendre, ne perçoit rien. Dans mon esprit, je me dis que effectivement, ça doit être normal.
Et après ? Après, c'est une journée normale. Ils jouent au football tous les deux, et quand il fait trop chaud, ils se retrouvent sous le chêne. Le frère prend sa guitare, et c'est ce jour-là que Laurent apprend à jouer les premières notes de Jeux Interdits. Mais quand vient l'heure de se coucher, il n'y a toujours qu'un lit pour deux. Et ils se retrouvent donc côte à côte, sous le même drap. Et Laurent, ce soir-là, n'arrive pas à dormir. S'il le pouvait, il se roulerait dans son drap. Mais ça n'est pas possible. Alors il pose ses bras, bien serrés le long du corps, le drap bien plaqué. Dérisoire protection. Il a bougé. Non, rien. Il respire plus fort. Non, rien. Il dit quelque chose. Non, rien. Et Laurent finit par s'endormir. Et le lendemain matin, son grand frère se lève et... rien. Il ne se passe rien. Et les trois nuits suivantes, il ne se passe rien non plus.
Je me dis que peut-être qu'effectivement, c'était bien un rite, puisque ni cette première nuit, ni la nuit d'après, enfin le réveil d'après, il va se passer quoi que ce soit. Donc dans mon esprit, bah, c'est terminé. Effectivement, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose dont je ne vois pas l'intérêt. Mais au final, c'était peut-être bien un rite auquel je devais avoir droit si je voulais rester et devenir un frère. À nouveau, j'avais repris confiance en mon frère et à nouveau, j'avais baissé ma garde. Et à nouveau, je dirais que même si j'avais eu mal, au bout de quelques jours, c'était passé. Et j'étais quand même à nouveau redevenu un enfant de 6 ans.
Mais la quatrième nuit, ça recommence. Et après, ça recommence encore. Pendant 3 ans, à chaque vacances scolaires, au rythme d'une nuit sur 2 ou d'une nuit sur 3, mais jamais moins. Et ça continue jusqu'à la fin de l'année 1979. Quand une sœur aînée se marie et que du coup... une chambre se libère. Enfin.
Quand il rentre, il n'y a plus lieu qu'on dorme dans la même chambre. Quand il rentre, il est dans une chambre en bas, moi je suis dans une chambre en haut, et le fait de venir dans ma chambre serait trop risqué pour lui, parce qu'il faudrait monter l'escalier, pousser une porte qui grince, et puis s'il était surpris, il faudrait qu'il justifie qu'est-ce qu'il vient faire en haut. Donc, tout s'arrête.
Maintenant, chacun a sa chambre, chacun a son lit. Laurent vient d'avoir 9 ans. Ça s'arrête. Mais pour lui, ça commence. C'est une émission de télévision sur Antenne 2 qui va ouvrir les yeux du petit Laurent.
Ma porte était toujours entrebâillée. Et puis très souvent, j'allais me glisser derrière cette porte. Je sais pas quel film c'était, je sais plus quel était le sujet. Je sais que c'était les dossiers de l'écran. C'était très rare à l'époque de parler de choses comme ça. Et je me rappelle vraiment quelqu'un avoir parlé, avoir mis des mots sur des choses que j'avais vécues. Mais non seulement il a mis des mots, cette personne a mis des mots sur ce que j'avais vécu, mais elle a mis l'interdiction, la violence. Je revois vraiment cette scène. Je me suis laissé glisser tout doucement le long du mur. J'ai pris mes genoux comme ça entre mes bras pour pleurer, surtout étouffer mes larmes, pleurer en silence.
Cette émission de télé permet à Laurent de mettre des mots sur ce qui lui est arrivé. Le mot viol et le mot inceste. Et c'est cette émission qui le rassure sur un point. Ça n'est pas normal. Les frères n'ont pas le droit de faire ça. Il a compris donc. Mais de là à parler... de la raconter. Il l'explique dans son livre. D'abord, c'est la peur de ne pas être cru qui nous fait taire. Ensuite, c'est la crainte de faire mal à cette famille que l'on risque de faire voler en éclats. Et enfin, c'est la honte de n'avoir rien dit. Cette même honte qui nous fait sentir coupables, monstrueux et sales. Et Laurent ne dit rien à personne. Et du coup, il se sent lâche. Et quand arrivent les frontières de l'adolescence et que les copains commencent à raconter leurs émois et leurs exploits, lui, le sexe, ça le dégoûte. Et dans sa tête, ça bouillonne. Et si tous ces viols avaient fini par faire naître en moi des envies homosexuelles? Et si finalement, je n'avais rien dit simplement parce que j'avais aimé ce sexe en moi? L'obsession de Laurent, c'est d'être normal. Et être normal, ça veut dire vivre en famille, comme si de rien n'était.
Quand on rentre dans cette logique du silence, on doit aussi rentrer dans la logique du faire comme si. C'est-à-dire que si jamais j'étais pas conforme à l'image du petit frère que je devais être, ben on se serait forcément inquiété, intéressé, on aurait cherché à savoir. Mon frère venait me récupérer les week-ends, on ne disait pas un mot dans la voiture, on faisait une partie de tennis sans rien se dire. Tout le temps, sur le trajet, l'envie de lui dire... quelque chose, de lui dire pourquoi tu m'as fait ça, rester toujours à 5 cm de ma bouche. J'ai toujours voulu lui dire mais pourquoi tu m'as fait ça, mais c'est jamais sorti.
Pendant ce temps-là, pour le grand frère, ça va. Il se marie, il a des enfants, il a un bon métier. Laurent, lui, est au début de la construction de sa vie d'adulte. Il commence par mettre de la distance avec sa famille. Et il s'inscrit en économie loin, à Lyon.
C'est vrai que moi, une nuit dans ma chambre universitaire, j'ai été témoin de toute la préparation d'un vol à main armée dans une station-service. J'ai appelé la police, etc. Et j'ai passé toute la nuit à l'hôtel de police de Lyon. Et j'ai été passionné par ce que je découvrais. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça que je veux faire. Moi, je faisais des études de sciences économiques et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Très, très peu de temps après, j'ai passé le concours d'inspecteur de police parce qu'effectivement, c'était devenu pour moi une évidence. L'engagement des policiers, c'est effectivement de tout mettre en œuvre pour aider les personnes qui ont été victimes d'une infraction, quelle qu'elle soit.
Laurent, K1K, se construit une vie à coups de psy et d'hypnotiseur. Un premier mariage, un enfant, une séparation. Et un deuxième mariage et deux enfants de plus. Et c'est à elle, sa deuxième femme, qu'il raconte son histoire pour la première fois. 33 ans après. En 2010. Un soir, sa femme s'endort, il se relève et il lui écrit une longue lettre avec ces mots jamais prononcés. « Mon frère m'a violé ». Et il laisse la lettre bien en évidence sur la table de la cuisine et il va se coucher. Et le lendemain, il attend dans son lit. Elle est revenue. Elle s'est assise près de moi, les yeux pleins de larmes, et elle m'a pris dans ses bras. Elle avait cru chacun de mes mots. Et ça sort pile au moment où les viols sont prescrits.
La force de dire, je l'ai trouvé qu'en 2010, donc quand j'avais 39 ans, et forcément à 39 ans, c'est fini. La prescription est passée, puisque c'est jusqu'à 38 ans. Donc c'est terminé, je ne peux plus parler.
Le robinet est ouvert. Laurent écrit ensuite à ses parents et à sa sœur.
Donc voilà, je fais ces lettres, je ne leur demande rien. J'ai juste voulu leur dire qui j'étais, pourquoi notamment à mes parents, pourquoi j'avais été cet enfant, pourquoi j'avais toujours été me réfugier dans ma chambre lors des repas de famille, pourquoi j'étais silencieux, pourquoi j'étais... J'ai juste voulu leur dire ça.
Il écrit aussi à sa belle-sœur, la femme de son grand frère. Pas de réaction. En revanche, la famille réagit. Sa sœur lui dit au téléphone.
« Pourquoi t'as fait ça, Laurent ? Tu fais plus partie de la famille ?»
Les parents, eux, attendent plusieurs jours pour réagir. Et c'est le père qui appelle. En larmes.
Allô, Laurent, on a lu ta lettre.
Et il lui passe sa mère.
Je te crois, Laurent. Je m'en doutais. J'ai toujours pensé qu'il se passait quelque chose de pas normal, mais j'ai rien osé dire. Tu comprends, j'étais pas sûr. C'est grave d'accuser ton frère si c'est pas vrai.
Elle savait, donc. Mais elle n'a rien fait. Pourquoi ?
Il se passe quelques jours avant que je digère. Voilà, j'ai besoin de réponses à mes questions. Sauf que je n'ai pas le temps de lui poser mes questions parce que très très peu de temps après, mon père m'appelle pour me dire qu'en une nuit, ma mère avait fait un micro-AVC et qu'elle s'est réveillée le matin en se demandant qu'est-ce que mon père avait fait de sa propre mère à elle. Sauf que ma grand-mère, donc sa mère à elle, était morte depuis 30 ans. Moi, je suis resté avec les questions que je n'ai pas pu lui poser, avec une famille qui m'a exclu et avec une mère... qui m'a gommé en une nuit quasiment de sa vie.
Laurent tire un trait sur sa famille. Aujourd'hui, il ne les voit plus. Et il a écrit ce livre pour, comme il dit, que la honte change de camp.
Je ne peux pas leur dire que la honte doit changer de camp et publier un livre avec un autre nom. Je ne pardonnerai jamais ce que mon frère m'a fait. Mais aujourd'hui, je fais quelque chose de ça. J'essaye d'aider les autres avec ça parce que je veux que les victimes trouvent le courage de dire, je veux que les victimes comprennent que... C'est pas nous qui avons fait quelque chose, c'est pas à nous d'avoir honte, c'est pas à nous de baisser la tête, c'est pas à nous de baisser les yeux, c'est à nos agresseurs. On doit pas avoir honte de ce qu'on nous a fait, parce que nous, on n'a rien fait.
Non, les frères ne font pas comme ça.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.